Et je vous invite à entendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, le verset 21, au chapitre 4, le verset 13. Pardon. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé, lui aussi priait. Alors le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Et une voix vint du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Élie, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Élie, fils de Nagai, fils de Matt, fils de Matathias, fils de Simein, fils de Joseph, fils de Yoda, fils de Yonan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Addi, fils de Kossam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Yorim, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Yonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Yobed, fils de Boaz, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Hérom et fils de Pharès, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Serouk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Eher, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Yared, fils de Malélel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Il était dans le désert, conduit par l'Esprit, pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut. Il lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem, il le plaça sur le faîte du temple et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, avant de revenir là-dessus, je vous invite à prendre le chant 302. Contrairement à la logique de la société, Père, il est vrai que le serviteur de tous est certainement le plus grand, parce que c'est celui qui fait vivre en vérité et dans l'espérance. Merci, Père, de nous rappeler cette évidence. Amen. Voilà ces récits que vous connaissez bien. Il y en a une partie de ce récit que vous sautez en général quand vous arrivez à la page ad hoc, c'est la généalogie de Jésus. Je ne sais pas si vous lisez tous les noms des ancêtres de Jésus les uns après les autres, comme je l'ai fait. Ça n'est pas qu'un exercice de diction. On aurait pu le croire, mais ça n'est pas tout à fait le cas. Il y a dans cette généalogie un enseignement qui est intéressant. Je ferai remarquer que dans la généalogie de Jésus, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en particulier, il y a les femmes dans la généalogie de Jésus, ce qui n'est pas le cas chez Luc. Luc est un peu plus macho, mais je ne vais pas entrer dans cette réflexion qui est intéressante. Je voudrais insister sur le fait que Jésus est appelé « mon fils » au moment du baptême, comme s'il y a une sorte d'élection privilégiée. Et donc là, Jésus s'affirme dans sa filialité bien, par rapport au Père. Mais tout de suite, Luc nous donne cette généalogie. C'est assez curieux, parce que ça n'a pas un intérêt fou, finalement, d'énumérer tous ces noms de personnages. Il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup de noms que nous connaissons, etc. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a un enseignement théologique, finalement. La généalogie de Jésus, elle passe par l'humanité. Jésus est fils de Joseph. Vous voyez, ça, c'est clair, net et précis. Et on remonte ainsi de fils en père, non pas de père en fils, mais de fils en père, on remonte ainsi jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Voilà. Or, à travers toutes les méandres de cette généalogie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute la Bible qui y passe, un nombre de personnages célèbres de la Bible qui sont énumérés là-dedans, il y a de tout. Quelqu'un qui n'est pas chrétien dirait, vous voyez, c'est complètement dingue, cette généalogie, Adam, on sait très bien qu'il a été façonné avec de la terre, il n'est pas fils de Dieu, etc. Bon, voilà, mais on pourrait dire, le jour où Dieu lui souffle dans les bronches, si je puis dire, trivialement parlant, à ce moment-là, il devient véritablement humain, comme si Dieu lui donner l'essentiel, le souffle de vie, pour qu'il soit véritablement humain. Il n'est pas que fait de chair, il est fait aussi fait de chair et de souffle, et du souffle divin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à partir d'Adam, il y a toute la suite qui arrive, comme si ce souffle qui était donné à Adam passait par le col génétique et allait de génération en génération comme cela, à travers toute une longue liste jusqu'à Joseph, le père de Jésus, et Jésus lui-même. Je pense que les rédacteurs de l'évangile de Luc, selon les récits que l'on choisit, ne donnent pas tout à fait la même orientation théologique. C'est effectif que si j'avais pris les évangiles de l'enfance chez Luc, eh bien je vous aurais dit, ben voyez, Jésus est né de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, etc. Puis j'aurais développé cette idée à travers beaucoup de considérations qui sont un petit peu longues d'énumérer là. Mais j'ai choisi ce texte-là parce que précisément, ce qui me frappe lorsque je lis cette généalogie, c'est qu'on a l'impression qu'il y a Dieu qui est présent, évidemment, tout à fait au départ de cette aventure humaine, mais qu'il y a Dieu qui traverse toute cette humanité, hein, de père en fils, d'être humain à être humain, finalement, si on élargit un tout petit peu, évidemment, hein, et qu'on arrive ainsi jusqu'à Jésus. On a l'impression qu'il y a une sorte de projet divin, qu'il y a une sorte d'énergie divine là qui se diffuse de génération en génération, qui fait que finalement, si Jésus est fils de Dieu, fils d'Adam, etc., eh bien nous sommes, nous aussi, à l'instar de tous ces hommes de la Bible qui sont énumérés les uns après les autres, nous aussi, des fils et des filles de David, de David bien sûr, et de Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a cette présence de Dieu avec un projet pour tout ce peuple. Le projet est intéressant. C'est que de ce peuple-là, qui est la descendance de Dieu, d'après le récit de Luc, ce peuple, il va être constitué dans un acte de naissance qui est l'Exode. Et parce que l'Exode, je voulais raconter ici, c'est vraiment un accouchement. Hein, le peuple sort de l'eau, de la mer des joncs ou de la mer rouge, enfin peu importe, et il va traverser le désert dans la solitude et la difficulté, avec la vie qu'il faut organiser, les manques, la souffrance qu'il peut y avoir, et lorsqu'on fait ses premiers pas, et puis il va se lancer petit à petit dans l'aventure de l'histoire, finalement dans l'aventure des êtres humains, et être là comme un témoignage de la présence de Dieu dans le monde, ce témoignage qui peut, comme je disais tout à l'heure, être quelquefois un peu virulent quant aux paroles à travers les prophètes, mais qui rappelle toujours finalement la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple, hein, cette présence de Dieu constante dans ce peuple et dans le monde finalement. J'ai l'impression qu'à partir de cette généalogie, qui est véritablement humaine et qui pose véritablement cette présence de Dieu dans l'humain, il y a ce projet de faire vivre un peuple à travers le récit de l'Exode. Alors c'est vrai que tout n'est pas rose, on ne va pas dire le contraire, puisque dès que l'aventure commence, je ne vous ai pas lu tous les textes, c'est un petit peu long, hein, mais ça murmure dur, comme dit la Bible, c'est-à-dire que le peuple râle, et du coup, il y a cet épisode de la manne. L'épisode de la manne, il se trouve intéressant, ce qui nous concerne, surtout dans les journées de la FEP hein, en particulier, c'est que pour répondre aux râleries du peuple hébreu qui a faim, qui regrette la bonne chair de la vallée du Nil, c'est vrai que dans le désert, c'est pas terrible, eh bien, il leur envoie la manne. Alors, tous les matins, il y a la manne, pas de problème, etc. Mais on ne peut pas garder la manne. Et si on la garde, si on la met de côté, elle pourrit et en plus elle empeste. Et moi je trouve ça assez génial parce que ça implique plusieurs choses. D'abord qu'il faut avoir confiance en Dieu parce que demain Dieu sera toujours présent pour nous donner ce dont nous avons besoin, fondamentalement parlant. Et puis si on met de côté, ben, ça pose toujours des problèmes. Si on ne partage pas, si on garde par devant soi, eh bien, on prive les autres. S'il y a un morceau de pain qu'on doit se partager, on peut le partager en deux, chacun à sa part, selon ses besoins. Mais aussi, s'il y en a un des deux qui dit « Moi, je prends ma part aujourd'hui parce que j'ai besoin pour vivre, mais je prends un petit peu pour demain », il va le prendre sur la part de l'autre. Ouais. Alors, vous me direz, c'est un peu simpliste, les sociétés sont plus complexes. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent de la manne de côté. Et parfois, cette manne, elle empeste aussi. Elle empêche les hommes de vivre. Là, nous ne savons que trop. Hein, quand cette manne peut servir à des spéculations financières, on ne peut être qu'extrêmement chagrin de voir des choses pareilles. Quand cette manne, cette richesse que nous avons est mal distribuée, on peut se poser quelques questions. Mais c'est ainsi. Il y a malgré tout, malgré ces difficultés structurelles de l'être humain, cette question de la manne, qui donc ne peut être gardée, parce que Dieu a bien prévu le coup, visiblement, si je puis dire, eh bien, l'aventure de l'Exode va quand même se réaliser dans des conditions que vous savez, qui ne sont pas toujours très très faciles, évidemment. Il y a donc ce projet qui m'intéresse, que Dieu qui est présent dans son peuple, véritablement, le peuple qui est vraiment l'héritier de Dieu, dans tous les sens du terme, il y a ce projet qui est là de le constituer en peuple dans sous le regard de l'histoire. Donc il y a quelque chose de communautaire qui est assez intéressant. Mais il y a un autre projet de Dieu, qui est le projet personnel, aussi individuel, et qui dans bien des cas ressemble bien au projet de Dieu que pour son peuple et au récit de l'Exode. Jésus. Comme le peuple sort de la mer des joncs, Jésus sort de l'eau du Jourdain. Voyez-vous ? De même que le peuple est guidé par la présence de Dieu, la colonne de fumée ou la colonne de feu, Jésus est guidé par l'Esprit aussi. Et il traverse le désert, lui aussi, comme le peuple a traversé le désert pendant 40 jours. Pas pendant 40 années, mais le 40 est là pour nous le signifier. Cette période qui est une période de difficultés et d'épreuves dans laquelle on va se forger une identité, finalement un projet, que sais-je encore, puiser des forces. Mais là, il est tenté, il jeûne. Il ne mange pas, il va avoir cette tentation. Lorsqu'on est dans la faiblesse, comme le sont les êtres humains qui sont automatiquement dans la faiblesse, parce que nous sommes limités, nous avons cette finitude, comme on dit, et comme je dis souvent, on va tous mourir dans cette pièce, c'est une bonne nouvelle, je suis désolé, mais enfin c'est comme ça, si ça déplaît à certains, vous n'y échapperez pas, vous aurez beau vous agiter, ça ne marchera pas. Et on a cette faiblesse, on a des tentations, tentation d'être le surhomme, d'être immortel, hein, tentation de la puissance, que sais-je encore. Et lorsqu'on a faim, c'est la tentation de pouvoir manger, évidemment, je me dis, c'est assez évident. Alors le diable joue là-dessus. Le diable, c'est notre faiblesse qui s'exprime d'une certaine manière. Et la petite voix intérieure nous dit, ah, si seulement je pouvais changer les pierres en pain, ce ne serait pas si mal que ça. C'est un petit peu pervers, quand même, de la part du diable. Moi, ça ne va pas nous étonner. Mais si j'avais la possibilité de changer les pierres en pain, ce serait quand même pas mal. Parce que je pourrais comme ça éradiquer complètement la faim dans le monde. Je pourrais distribuer à tout le monde sans problème, jusqu'au fin fond des savanes les plus reculées ou des bidonvilles les plus perdues. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Alors, est-ce que ça vaut le coup peut-être de donner son âme au diable, si je puis dire, pour pouvoir sauver l'humanité. C'est des problèmes qu'on pose parfois aux enfants pour voir un peu quelles sont les réactions des uns et des autres. Mais manque de peau, ça marche pas comme ça. Un jour, Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri 5 000 personnes. Vous voyez ? Il joue petit. Hein. Jésus, 5 pains et 2 poissons. Je veux dire, franchement, hein, nous, on fait quand même mieux. On a quelques millions de tonnes de surplus agricoles qui sont stockés ici ou là dans les pays les plus riches. Alors ces 5 pains et ces 2 poissons, je veux dire, hein, la multiplication des pains, c'est fait. On l'a fait. Hein, et dans plusieurs denrées, pour plusieurs denrées en plus. Le problème, c'est qu'avec quasiment rien, Jésus a nourri beaucoup. Et que nous, avec beaucoup, on nourrit quasiment rien. Là, le problème, il est là. Et ce n'est pas parce qu'on aura la puissance de changer les pierres en pain qu'on va solutionner le problème. Vous voyez ? Car le problème, il n'est pas là. Le problème, il est effectivement dans la relation qu'on va avoir avec les autres, que ce soit des proches ou des lointains, peu importe, mais c'est bien là qu'est le problème, la manière dont on va partager et redistribuer finalement ces richesses. Il manque quelque chose dans le discours du diable pour que ce soit fonctionnel son truc, mais s'il y a ce quelque chose, on va fuir le diable. Même si je parle en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Même si j'ai la foi la plus totale jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Et même si je donne mon corps aux flammes, cela ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. C'est-à-dire cette relation que je vais entretenir avec l'autre, où je vais poser l'autre dans son identité telle qu'il est, sans lui demander de compte, etc., mais vers lequel j'aurai envie d'y aller pour être le prochain de l'autre, selon la parabole du bon samaritain, pour lui apporter secours, sans lui demander son nom, sans lui demander quoi que ce soit, de compte finalement, mais voir quel est réellement son besoin. Le diable peut nous proposer ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne fonctionne pas, finalement. Alors, comme ça ne marche pas, il y a la puissance politique. Là aussi, c'est pareil, hein, finalement, parce que si j'ai la puissance politique, je pourrais apporter la paix dans le monde. Enfin bref, vous connaissez le truc. Hein. Et là aussi, faire en sorte que la distribution de surplus alimentaire puisse se faire dans la dignité et dans l'efficacité. Mais ça ne marche pas comme ça non plus, malheureusement. Ça ne marche pas comme ça. On sait très bien que les hommes ne possèdent pas le pouvoir, mais que c'est le pouvoir qui possède les hommes, malheureusement. Et que les hommes, quand ils deviennent puissants, ont tendance à classer, ont tendance à organiser de telle sorte que, à côté de leurs idées, à côté du pouvoir, il y a toute une frange de population qui n'entre pas dans les vues du pouvoir. Et cette frange de population, en général, est rejetée, voire éliminée purement et simplement. Toutes les dictatures dans lesquelles les hommes ont un pouvoir absolu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement, bien, sont ainsi. Ou bien on entre dans les vues du pouvoir, ou bien on est éliminé. Et les opposants, les clubs de philosophie, des gens comme les francs-maçons, par exemple, tout ça est interdit, rejeté, etc. Et nous le savons. Même si nous instituons le pouvoir de l'amour. Parce que si j'ai le pouvoir, après tout, je veux dire, j'ai instauré le pouvoir de l'amour. Moi, comme ça, tout le monde sera content. Là, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui n'entrent pas dans cette manière de voir, on va les voir comme ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'amour. Ça va être des affreux jojos, pire que tout. Et tous les pouvoirs qui manient le langage de l'amour pour installer leur puissance sont en général les pires. Vous savez que Staline, qui a quand même quelques millions de morts sur le dos, hein, il avait un nom extraordinaire, on l'appelait le petit père des peuples. Vous voyez, c'est quand même sympathique, le petit père des peuples. Vous voyez. Voilà. Malheureusement, le petit père des peuples avait un couteau dans les dents et les choses ne se sont pas très bien terminées. Mais on pourrait multiplier comme cela. L'Église elle-même, lorsqu'elle parle d'amour, peut devenir l'Inquisition dans certains de ses domaines. Là, nous ne savons que trop ce type de dérapage. Et on pourrait multiplier les exemples. Oui, le pouvoir est quelque chose de diabolique, qui nous fait rêver, qui nous fascine, parce qu'on peut tout faire lorsqu'on a le pouvoir. Et c'est fascinant. J'ai un de mes garçons qui a côtoyé le pouvoir d'assez près et qui m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, c'est pas tellement ce moment où il y avait deux ou trois ministres qui avaient piqué dans la caisse et qui s'étaient fait prendre, vous savez, bon. Il m'a dit, c'est pas tellement ça qui attire les hommes de pouvoir. Pas tellement les finances. C'est le fait que quand ils arrivent quelque part, on leur ouvre les portes, on leur met le tapis, etc. Qu'il y a une file d'attente, ils passent devant, ils ont un coupe-fil et ainsi de suite. C'est quand ils vivent véritablement cette sensation du pouvoir qui les enivre complètement. Et c'est intéressant de ce type d'analyse. Vous voyez, on est pris, on est saisi par le pouvoir, on devient quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, on a sa place au Panthéon et sa statue au coin des rues. Bon, enfin, c'est comme ça. Mais n'empêche qu'on meurt comme tout le monde, là aussi. Et puis alors, si tu m'adores et si tu te laisses tomber du haut du fait du temple, eh bien, les anges de Dieu te récupéreront. Là aussi, récupérer Dieu pour soi est quelque chose d'épouvantable. Dire se substituer à Dieu en le prenant pour nous, d'une certaine manière, c'est toute la forme de l'idolâtrie, finalement, des formes de paganisme aussi qui sont là et qui sont des dérives, là aussi, de la puissance dont l'homme rêve et qu'il voudrait avoir, mais qu'il voudrait avoir à son profit. Hein, si tu tombes, il te ramassera, dire, véritablement. Mais il est peut-être plus intéressant de dire, invoque ton Dieu pour qu'il vienne t'aider afin de donner les possibilités pour aller vers les autres ou d'aller aider les autres directement, quelque chose comme ça qui aille vers le monde, vers les autres. Et dire, mais là aussi, évidemment, invoquer Dieu pour venir nous sauver, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Nous sommes que dans des formes d'idolâtrie avec toutes les dérives qui peuvent se faire lieu à des moments pareils. Et c'est bien le problème. Et nous pouvons nous retrouver, évidemment, dans tous ces cas de figure, peut-être pas de manière aussi forte et violente telle que je viens d'exposer, évidemment, mais je veux dire, nous sommes comme ça, un peu comme ça. Problème de la mort qu'on voudrait dépasser, problème de la puissance qu'on voudrait avoir un peu plus, véritablement, problème de Dieu dont on voudrait voir des manifestations claires, nettes, précises, etc. Voilà. Et pourtant, nous sommes les fils de Dieu. Nous appartenons à cette généalogie. Si nous pouvions continuer cette généalogie de Luc, eh bien, il y aurait les descendants de Jésus, réels ou spirituels, enfin peu importe, et puis on arriverait jusqu'à nous, très vraisemblablement, et on pourrait dire, nous aussi, nous sommes les fils de Dieu, finalement, et il y a quelque chose qui est intéressant. Et je crois que le fait que Jésus qui sort de l'eau, qui traverse le désert, qui subit les tentations comme le peuple qui sort d'Égypte et qui est constitué en peuple, là, quand c'est un homme qui le vit, ça devient non plus l'affaire du peuple, le projet du peuple, mais le projet pour l'individu qui est là. L'individu, à partir de ce moment-là, quand on fait cette comparaison, il est le résultat, si je puis dire, de manière malhabile, de ce deuxième projet de Dieu, qui est de faire de nous, à travers ce peuple libre des Hébreux, de faire de nous des hommes libres, finalement. Des hommes libérés, finalement, de la culpabilité, de la faute, du poids qui pèse sur nous lorsque nous dérapons. La tentation, elle est là pour nous mettre en garde, évidemment, pour montrer qu'elle peut être vaincue si on se tourne véritablement vers Dieu. À chaque fois, Jésus répond par une parole de l'Écriture qui le libère finalement de la tentation. Et il y a là l'émergence d'un être nouveau, finalement, un être qui va vaincre finalement le problème du mal à travers Jésus-Christ lui-même. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais c'est vrai que nous sommes les enfants de Dieu. Ce que Paul va développer d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains aussi. Alors comment ça se vit? Si je pars de cette idée que Dieu, pour chacun d'entre nous, a un projet, si je pars de cette idée que en chacune et chacun d'entre nous, il y a quelque chose de Dieu, si je pars de cette idée qu'il y a un projet pour l'ensemble, le peuple que nous formons, alors quel regard je vais poser sur l'autre qui est là, comme un être créé, toujours recréé à nouveau par l'Esprit et par l'amour de Dieu. Parce que aimer, c'est créer, finalement, ou recréer. Et c'est ça qui est important aussi pour nous, en ces journées où on a réfléchi sur ce que peut être la diaconie et l'entraide, et qu'on débouche, je dirais, quasiment naturellement, par ce regard qu'on va porter sur les autres, en réalisant qu'ils sont eux aussi des enfants de Dieu, qui sont véritablement nos frères et sœurs, et qu'ils appartiennent au même peuple que nous, finalement, avec des projets qui sont semblables, même s'ils sont personnels, dire, on va porter sur un regard tel que, ensemble, on va pouvoir lancer des projets, construire, rencontrer, écouter les autres, finalement. Parce que s'ils sont semblables, ils ont aussi leurs expériences, des tas de choses à entendre et des tas de choses à dire et à raconter, finalement, bâtir. Bâtir quelque chose de nouveau à partir d'hommes nouveaux, d'hommes recréés, régénérés sans cesse par l'Esprit, d'hommes instruits par les récits de la Bible, eh bien, c'est vivre quelque chose du royaume, c'est bâtir les royaumes, c'est bâtir l'espérance aussi pour tout un chacun. Et ça, je crois que c'est important, surtout en cette période, l'espérance. L'espérance, ce n'est pas un rêve, mais c'est véritablement quelque chose qu'on touche du doigt, quelque chose qui devient possible parce qu'on en a les signes déjà dans le présent. C'est pour ça que la période de Pâques, avec ce qu'elle porte d'espérance, d'un amour plus fort que la mort finalement, hein, d'un amour qui fait tout, qui permet la vie dans sa plénitude, je dirais, est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Incontestablement, il y a, je crois, pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, un projet divin qui est fondé sur l'amour, qui est fondé sur l'espérance et qui s'appelle, pour tout un chacun, le royaume. Amen.